tous les homicides commis au Québec, incluant les affaires non élucidées, vues à travers les archives nationales et les documents légaux. Bienvenue sur Mémoire d'archives. Alors ce soir, bienvenue dans les années 40, et oui, alors que battait son plein la Deuxième Guerre mondiale en Europe, Pearl Harbor n'avait toujours pas été attaqué, mais en 1940, au cours de l'été 1940, ça bardait et il y a déjà beaucoup de Canadiens, dont un dans ma famille, le cousin de mon grand-père, qui voulait s'engager absolument pour faire partie de l'aviation. Malheureusement, il a été refusé dans l'aviation, mais il a été accepté dans l'armée de terre et il a participé au débarquement plus tard, en 1944. Alors, je le salue. Salut Gaston, décédé en 2010, mais j'ai toujours un grand respect pour les hommes qui ont donné leur vie même et qui ont donné une partie de leur vie pour ceux qui ont survécu à cette grande libération. J'espère, les plus jeunes, j'espère qu'on vous enseigne ça à l'école de façon correcte parce que c'est tellement important. Cet épisode de l'histoire, pour ne pas la répéter. Mais ce soir, je ne ferai pas de leçons sur la guerre ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour souligner que pendant que la guerre battait son plein en Europe, ben ici, il y a des conjoints qui continuaient d'assassiner leurs conjointes, ni plus ni moins. Et ce soir, c'est Alphonsine Labrie qui, le 9 juin 1940, elle se promenait au coin des rues Sainte-Catherine et Saint-Laurent à Montréal. Et elle était en compagnie d'un dénommé Marcel Berthiaume, 23 ans. Elle, Alphonsine, avait 40 ans. Et à ce moment-là, c'est là qu'elle a vu un dénommé Zénon, oui, Zénon comme prénom, Limoges. Alors, si vous êtes enceinte, mesdames, et que vous cherchez un nom pour votre petit garçon, bien Zénon, pourquoi pas? Peut-être que vous trouverez ça original ou bien vous allez me traiter d'imbécile, mais bon, bref. Donc, Zénon Limoges. Lui, il avait rencontré Alphonsine un an auparavant, donc il se connaissait, c'est pour ça qu'elle l'a reconnu. Et sans aucune hésitation, il a foncé sur les deux avec un couteau et il les a poignardés tous les deux. Berthiaume, de son côté, ben, il a survécu à l'agression, mais Alphonsine, malheureusement, n'a pas survécu. Donc, on aura compris, Alphonsine, dans le fond, était une prostituée. Elle travaillait dans le Red Light, donc ça explique pourquoi qu'elle n'a pas été assassinée chez elle directement, comme on a pris l'habitude de le comprendre. Les femmes ou les conjointes assassinées à la maison ou chez elles, majoritairement, il faut faire attention parce que c'est pas du 100% pur, mais presque. Alors le profilage se fait dans ce sens-là, c'est que quand elles sont assassinées à la maison, c'est souvent le conjoint. Dans une situation plus de relation plus normale, je dirais. Et quand la scène de crime se situe à l'extérieur de la maison ou du logement ou peu importe, c'est souvent ça touche au crime organisé souvent quand on parle d'une victime féminine évidemment. On a écrit sur elle que malheureusement, elle avait été mariée à une brute qui la battait comme plâtre. Ça, c'est, je cite, un journal de l'époque qui a dit ça. C'était dans la presse, justement, en 92. Donc, on en a parlé du cas plus tard et tout ça. Alors, voilà, elle n'a pas eu de chance dans la vie, cette pauvre Alphonsine. Quant à Limoges, lui, bon, le prédateur ou l'agresseur, il avait 34 ans et son procès s'est déroulé les 23 et 24 septembre 1940 à Montréal devant le juge, eh oui, Wilfrid Lazur. Donc, Zénon, quand il a été déclaré coupable, parce qu'il a été déclaré coupable et condamné à mort, comme vous le savez maintenant, l'habitude c'était de leur laisser la parole si toutefois il y a des condamnés qui avaient quelque chose d'intelligent à dire. Et quand on lui a demandé justement s'il y avait quelque chose à dire, ben M. Limoges, il a déclaré que, bon, on peut y aller qu'un bémol, on peut en douter, mais que lui, en la poignardant, il avait aucune intention de la tuer, il voulait seulement qu'elle change de vie. Ah bon? drôle de moyen pour convaincre sa copine de changer son mode de vie en la poignardant. Pourquoi qu'en faisant des trous, elle aurait changé de métier? Je sais pas. Ben bref, finalement, Zénon Paul Limoges a été pendu vers 7h du matin, le 20 décembre 1940. 4 jours seulement avant la pendaison de Limoges, donc le 16 décembre 1940, il n'y a pas de lien vraiment, c'est juste le fait que c'est proche dans le temps. Il y a une autre victime d'un conjoint suicidaire, celui-là, qui s'appelait Magdalena Skotonik ou Madame Nicola Lebznik. Elle avait 44 ans. La chose s'est passée sur la rue Hochelaga à Longue Pointe, pardon, à Montréal. Et dans cette affaire-là, il y a 2 scènes de crime. On va tout vous expliquer pourquoi. Donc, dans son édition du matin 16 décembre 1940, La Patrie, le journal La Patrie, qui a été très populaire à une certaine époque, en tout cas tout au long d'une bonne partie du 20e siècle, annonçait que le Polonais Jan Mariniak, 46 ans, était tenu responsable du meurtre de Magdalena Skotonik, que l'on désignait également sous les noms de Madame Nicola Lebznik, qui était le nom de son mari, au fond, ou encore Madeleine Skotonik. Hein, c'est pas facile. Pas facile, la vie de podcasteur. le meurtre, les conditions du meurtre ont été tellement spéciales, particulières, que La Patrie l'a qualifié de cet incident-là, et j'ouvre les guillemets, comme l'un des meurtres les plus atroces de l'année. Rien de moins. Peut-être aussi l'un des pires des annales policières de la métropole. C'est produit hier après-midi, rue Hochelaga à Longue Pointe. Une Polonaise de 44 ans, Madame Madeleine Skotonik Lebznik, domiciliée au numéro 6405 rue Hochelaga, fut poignardée à mort en pleine rue vers 2h hier après-midi. Donc, le coupable, où on va parler d'accusé, parce qu'il n'a pas encore été condamné. Donc, l'accusé idéal dans cette affaire-là, c'était Jan Mariniak, qui a 44 ans, donc qui habitait avec elle. C'était assez clair que les soupçons se sont tout de suite... en tout cas, les yeux se sont posés sur lui en premier. Selon des témoins, il y aurait eu... le couple se querellait depuis plusieurs mois, donc il y avait de la bagarre au sein du couple. Ça allait pas bien. Là, on parlait de signes annonciateurs au cours de la série sur le féminicide. Ben ça en est un. Hein. Si le couple ne s'entend pas du tout, au lieu de regarder la télé ensemble, Netflix et tout ça, puis si ça va bien, on partage le même plat de popcorn, ben normalement, ça va bien. Mais si on se chicane tout le temps... Il y a des chances qu'à un moment donné, ça dégénère à quelque part. Et la veille, justement, la veille du drame, leur engueulade s'est tellement intensifiée qu'il y a une voisine qui a dû s'enfermer à double tour pour se sentir en sécurité. Donc, je ne sais pas ce qu'elle a entendu réellement, des paroles ou peu importe, là, où c'était le niveau de violence ou quelque chose comme ça. Mais bon, elle a tellement eu peur qu'elle s'est enfermée à double tour. Donc, c'est vers 11h que tout aurait dégénéré. Et le Polonais Mariniak, on croit que c'est là qu'il aurait commencé à la frapper parce qu'on a relevé des traces de sang sur un des draps du lit de la victime. Et quelques instants plus tard, bien, Mariniak est allé chercher un gros couteau à dépecer. Rien de moins, il était vraiment décidé. Et dont la lame, on décrit le couteau avec une lame de 12 pouces de long. C'est pas chic, ça. Mettons. Mais Magdalena ne s'est pas laissée faire, évidemment. Elle semblait avoir quand même un certain caractère, parce qu'en le voyant arriver avec son couteau, elle lui a dit... elle lui a dit, si tu veux faire un bel ouvrage, va l'aiguiser sur une meule. En voulant dire, tu me tueras pas avec un couteau qui est émoussé, qui est mal aiguisé. Et ce qui est le plus curieux dans cette affaire-là, c'est qu'il l'a fait. Il a retourné de bord, il a fait demi-tour, il est allé aiguiser son couteau sur la meule, puis il est revenu vers Magdalena. Mais par contre, Quand il est revenu cette fois-là, ben Magdalena réussit quand même à prendre la fuite jusqu'à un certain point. Elle a réussi à se glisser à l'extérieur du logement pour se mettre à courir dans la rue. Quand elle a dévalé la rue Hochelaga, Magdalena avait déjà le visage ensanglanté, donc à cause des premiers coups, les coups de poing et tout ça qu'elle avait reçus. Mais elle a réussi à arrêter un chauffeur d'autobus pour lui dire que son mari voulait la tuer. Puis elle lui a dit tout simplement « Mon mari veut me tuer, alertez la police, vite, vite, ça presse. » L'homme a hésité, le chauffeur d'autobus il a hésité sur le coup, là, probablement en état de choc. Puis il a poursuivi sa route sans dire un mot. Et ce qui est le plus bizarre dans ça, c'est que selon une témoin qui a tout vu depuis sa fenêtre, elle a dit plus tard que le chauffeur d'autobus, ben, crime, il aurait eu juste à ouvrir la portière de son véhicule, puis il aurait sauvé la vie à Magdalena automatiquement. Donc, pourquoi? C'était pas trop lui demander, je pense. Mais bon, voilà, il a décidé de continuer puis de pas se mêler de ce qui se passait dans la rue. Et comme on peut le deviner, malheureusement, ben ça a donné le temps à Mérignac de rattraper Magdalena. Et bon, il l'a couché par terre, il l'a forcé à se coucher par terre. Et entre ses jambes et en tenant son couteau à deux mains, ben il a plongé la lame à quatre reprises dans le corps de sa maîtresse. Wesh, devant les yeux de tout le monde. Finalement, il s'est pas caché, il a fait ça en pleine rue. Il y a certains journaux, bon, qui. Ou une témoin, là, Madame Lamarche, qui a été témoin de la scène, elle a comparé ça à un boucher qui égorge un animal, rien de moins. On voit là, vraiment que ça a choqué les gens. Écoutez, c'est imaginez que ça arrive aujourd'hui, là, on va être tout aussi impressionnés. Là, c'est pas le genre de scène. Que ce soit en 1940 ou aujourd'hui, c'est vraiment dégoûtant, là. Tellement que, bon, Madame Lamarche a dit aussi qu'elle a fermé les yeux parce que elle a passé à deux doigts de s'évanouir. Donc, tout ça devant la scène. Et après avoir commis son crime, on dit que le comportement des tueurs est aussi important avant que après le crime. Et lui, bon, quand il a fini par réaliser que Magdalena était décédée puis que bon, il n'y avait plus rien à faire, ben, il s'est relevé, puis tranquillement, ben, il est retourné chez lui, dans son logement, pour attendre la police, tout simplement. Il a attendu calmement. Et à l'arrivée des détectives, justement, le corps de la victime gisait dans la neige près d'un poteau de téléphone. Puis, eux autres, ben, ils ont constaté qu'elle avait reçu deux coups à la poitrine et un troisième dans le côté droit. Donc, on parlait de quatre coups de couteau tantôt. Là, c'est là que, encore une fois, si vous remarquez des contradictions, j'ai pas toujours le temps ou j'y pense pas tout le temps de les souligner, mais souvent, ça vient des journaux. Bon, c'est trois ou quatre coups de poignard, des fois, on le sait pas. Des fois, ça concorde, ça se corrobore l'un l'autre, c'est correct. Mais souvent, il y a des contradictions comme ça. C'est pas, ça vient pas jouer nécessairement sur l'histoire, mais bon, c'est des petits détails. C'est sûr que pour en avoir le cœur net, à ce moment-là, il faudrait consulter le dossier judiciaire, par exemple, ou faire sortir l'enquête du coroner. Mais bon, on va continuer avec le sort qu'on a réservé à notre monsieur Mérignac. Aux policiers, Mme Lamarche, qui avait tout vu de la scène, elle a dit aux policiers que le mari, donc Nick Lebsnick, le mari de la victime, était en train de purger une sentence à Saint-Vincent-de-Paul. Donc, c'est un autre criminel dans le décor. On voit que c'est un milieu pas facile, encore une fois, où le crime survient. Donc, c'est pas des petits couples tranquilles qui vont à la messe à tous les dimanches matins. Alors, voilà, c'est ça. Lui, pendant qu'il était en prison, ben sa femme s'est permis d'habiter avec un autre homme pour se sentir moins seul, mais malheureusement, elle n'a pas fait le bon choix. Et on soupçonne aussi que le mari, on le sait pas exactement, là, mais on soupçonne que le mari avait quand même une peine assez importante au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul parce que Mérignac vivait avec elle depuis maintenant 6 ans. Donc, ça veut dire que, si on en déduit, ça veut dire qu'il y avait une peine d'au moins 6 ans. Là. Alors, normalement, le pénitencier, c'est pas parce qu'on a volé des bonbons qu'on se retrouve là, là. Et ce qu'on apprend aussi, un autre fait assez bizarre, ben bizarre, c'est que ça se rajoute dans le fond au contexte et tout ça, c'est que l'hiver précédent, Mérignac avait été victime d'un accident, puis il y avait même, l'accident avait été tellement important qu'il a frôlé la mort. Il conduisait sa voiture à traction animale, donc évidemment c'est une voiture tirée par un ou des chevaux. Et quand il a été victime d'un accident, il sortait de sa ferme au moment où c'est arrivé. Et devant l'arrivée d'un tram, donc on dit que c'est un tramway, le cheval il a pris le mort aux dents. Puis la voiture a été littéralement réduite en miettes sous le tramway. Alors, c'est pas rien. Et la bête a été mortellement blessée, donc elle s'en est pas sortie. Le cheval s'en est pas sorti. Mais Mérignac, lui, a été transporté à l'hôpital souffrant de graves fractures. On craignait même pour sa mort plus d'une fois. Mais toutefois, il a survécu et il a quitté l'institution, il a quitté l'hôpital parfaitement rétabli. Alors, l'accident, est-ce que ça a venu jouer un rôle dans le drame qui allait suivre quelques mois plus tard? Je ne sais pas. Ce qui ajoute au drame aussi, c'est que Magdalena était la mère de plusieurs enfants. Donc, elle a laissé plusieurs orphelins derrière elle. Et heureusement, par contre, il n'y a aucun d'entre eux qui habitait avec elle au moment du drame. C'est toujours selon Mme Lamarche, qui semblait être quasiment la commère du quartier. Elle savait tout, elle. C'est bizarre, mais au moins, quand quelqu'un sait tout de même, on peut s'approcher et en apprendre beaucoup. Elle, selon elle, il y a un des enfants qui était âgé de 14 ans qui se trouvait à l'école de réforme. Hein, ça va bien dans cette famille-là, hein, c'est merveilleux. On voit qu'il y en a qui étaient promis aux grandes études. Puis il y a un autre qui était recherché aussi pour avoir déserté l'armée canadienne. Hein? Et ça va, c'est merveilleux. Et deux autres se trouvaient en service actif à Petawawa, en Ontario. Donc, ils étaient peut-être sur le bord de partir pour la Grande Guerre. Je vous rappelle qu'on est en 1940 et à Petawawa, il y en a déjà qui s'entraînaient pour s'en aller de l'autre côté de l'Atlantique. Après son crime, on a dit que Mérignac aurait voulu se suicider. On donne pas de détails, mais c'est pour ça qu'on dit que c'est par un conjoint suicidaire dans ce cas-là. Et ce sera, comme vous l'aurez compris, une exception, si on veut, à la moyenne qui utilise normalement les armes à feu. Donc, lui, ça a été le couteau. Et un couteau de 12 pouces, par exemple, c'est quand même pas rien. Mais on ne sait pas avec quel instrument ou quelle méthode il aurait utilisé pour essayer de se suicider. Bref, l'enquête de coroner a été dirigée par maître Richard Dockett, un autre nom qui a été assez propagé à Montréal à une certaine époque. On va sûrement recroiser ce monsieur Dockett. Et le premier témoin entendu a été Madame Ephraim Lamarche. Hein? Rien de moins. C'est pas une grosse surprise. Elle est venue au monde. Son vrai nom, dans le fond, était Nelly Butler. Donc, une anglophone. Et elle résidait au 6405 Hochelaga. On a ensuite entendu le docteur Jean-Marie Roussel, qui a expliqué avoir noté sur le cadavre des bleus au bras et plusieurs égratignures, en plus d'un coup pénétrant au moins 5 à 6 pouces dans le corps et transperçant le cœur de part en part. Il y avait aussi des coupures superficielles aux doigts. Donc, comme je le rappelle, ça c'est probablement des blessures de défense quand elle a essayé d'arrêter les coups de couteau. Parce que les plaies de défense, normalement, surviennent aux mains, aux avant-bras ou aux bras. Parce que c'est quoi le réflexe de l'être humain? C'est de tendre les bras entre soi et son agresseur pour essayer de créer une distance, pour essayer de se protéger de certains coups. Bref, voilà, je vous apprends rien là-dessus, je suis sûr. Et ensuite, le procès de Mérignac s'est tenu au Palais de justice de Montréal du 1er au 3 avril 1941 devant le juge. Oui, vous l'avez, Wilfrid de l'Azur. Face aux preuves qui étaient accablantes, évidemment, hein, avec la situation qu'on vient de décrire, je pense que il n'y avait pas grande défense pour s'en sauver. La stratégie était dure à trouver, en tout cas. Et face à ces preuves-là, ben, le jury a délibéré durant quand même 2 heures et demie avant de déclarer coupable de meurtre M. Mérignac. Et lors du prononcé de la sentence, le condamné aurait simplement remercié le juge qui a fixé son exécution au 4 juillet 1941. Par contre, sa peine a été commuée en emprisonnement à vie et il a pris le chemin du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. J'espère qu'il n'a pas croisé le mari de sa victime, parce que... Hein? Vous devinez la suite. Selon la patrie, l'Ukrainien de 44 ans, je ne sais pas si vous remarquez une autre contradiction, tantôt on disait que c'est un Polonais, puis là maintenant, ben, la patrie dit que c'est un Ukrainien. Bref, on ne sait pas trop. Comme quoi que les Ukrainiens sont arrivés au Québec bien avant 2022, depuis la récente guerre qui n'est toujours pas terminée d'ailleurs. Et on salue d'ailleurs le courage des Ukrainiens dans cette partie-là. Sauf que si Mérignac était Ukrainien, ben lui, on le salue pas. Il a quand même enlevé la vie à une femme, ici même à Montréal. Mais ce qu'on raconte, ben c'est peut-être pour ça que ça donne plus de crédibilité au fait qu'il était ukrainien. C'est qu'au moment du prononcé de la sentence, ben on lui a traduit en ukrainien le prononcé de la sentence, donc par un interprète là, qui s'appelait Jay McKay. Et il a répondu simplement « Merci, votre seigneurie ». Voilà, donc on présume qu'il ne parlait pas beaucoup français, ni même anglais. Finalement, lorsque le juge lui a demandé s'il avait quelque chose à déclarer, ben, il aurait simplement répondu non. Et selon mes recherches, on croit que Mérignac serait décédé à Montréal le 15 février 1963. Et les femmes continuent d'être victimes de la violence des hommes au cours de la décennie 1940. Il ne se passe pas beaucoup d'années hein, entre chaque cas, malheureusement. Donc, ça revient assez souvent. Et cette fois-ci, bien, on se plonge le 10 juillet 1941. Et cette fois-ci, ça se passe à Stanstead, pas loin des lignes américaines, donc de la frontière américaine. Ici, ce qui va avoir de particulier, on va rentrer dans le détail, mais c'est assez spécial, là. C'est quelqu'un qui faisait une fixation, donc c'est pas nécessairement le conjoint direct de la victime, mais lui, il pensait être le conjoint. Donc, l'agresseur s'appelait Sumner Muntle, il avait 57 ans. Il habitait sur la ferme de son frère, John Muntle, qui était un avocat de Stanstead. Selon le rapport du juge Hector Verrette, préservé dans le dossier judiciaire, et cette fois-ci, je précise que, bon, j'ai pas tout lu le dossier judiciaire, c'est quand même volumineux, mais je l'ai consulté et je me suis fié sur le jugement du magistrat dans cette affaire-là, qui écrivait que Muntle a quand même fourni beaucoup de détails, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Donc, selon le juge, Muntle est né le 7 décembre 1883 à Stanbridge, au Québec. Il a travaillé durant près de 6 ans pour la banque Eastern Townships, avant de s'enrôler en 1915 dans la 5e Canadian Mounted Rifles. Il en a été congédié pour cause de maladie, c'est ce qu'on écrit en guillemets, et en 1916, ça ne l'a quand même pas empêché de s'enrôler dans la 117e E.T. Battery, et encore congédié pour la même raison. Donc, c'est comme s'il s'obstinait à vouloir être dans les forces armées. Puis finalement, on découvrait qu'il y avait une petite bébite dans la boîte à peau, puis pouf! Sors de l'armée, mon pit, avec un bon coup de pied dans le cul. Et en 1919, il a fait son service militaire aux États-Unis. Hein? On voulait pas de lui dans l'armée canadienne? Ben tant pis, moi je m'en vais aux States. Think big! Et c'est là qu'il a servi, entre autres, au Panama. Mais il avait pas de l'air chanceux. Il a souffert de malaria. Donc, de 1919 à 1921, il a été interné, j'ouvre les guillemets, pour démence dans les hôpitaux suivants, à savoir Bellevue Hospital of New York du 4 mars au 29 mars 1919, alors qu'il a été hospitalisé au Central Islip Hospital for Insane of the States of New York d'où il sortit le 24 mai 1919. Et le 16 juin 1921, il a été interné au Walter Reed General Hospital à Washington, D.C. jusqu'au 11 août 1921. Et je ferme les guillemets. Donc, M. Mental, en 1933, après toutes ces aventures-là, il revenait avec son petit baluchon sur l'épaule, dans la région de Stansted, afin de venir habiter avec son frère, évidemment. T'sais, il voulait. Bon, c'était peut-être la seule place aussi qu'il connaissait quelqu'un qui était prêt à le reprendre et à prendre soin de lui, à le comprendre aussi, peut-être, là. On raconte que l'ancien militaire a fini par s'amouracher d'une certaine Amy Gear Moranville, qui était la servante de John Mantel, donc qui était la servante de son frère. Mais on dit que Amy finalement a refusé sa demande en mariage, je dis, rien de moins. Lui, il était tellement confiant que c'est pas rien qu'un petit verre que je t'invite à prendre. C'est est-ce qu'on se marie? Je peux comprendre la demoiselle qu'elle ait refusé, hein, c'est assez évident. Donc, elle voulait rien savoir. Et le juge Verrette, il a vu dans cette cause comme une affaire de crime passionnel. Ben là, c'est ce qu'il écrivait là, en 1900, dans les années 40. Donc ici, on va parler plus de, encore une fois, d'un féminicide. Mais pour être plus précis, comme je l'ai dit dans la première ou deuxième balado, j'aime pas vraiment le terme de féminicide, c'est trop large. Donc, ici, c'est le meurtre, un homicide domestique par un conjoint non-suicidaire. Parce que lui, évidemment, là, il avait commencé, dans sa tête, à être le conjoint de Amy. C'est ça qui était devenu. Mais on peut deviner que le refus de Amy, ben, a comme déclenché quelque chose en lui. Et peu de temps après, donc le 10 juillet 1941... il a décidé de passer à l'acte puis de dire « Ok, c'est assez ». Donc, l'état de choc pour lui, ça a été ce refus-là de mariage. Donc, peu de temps après, le 10 juillet 1941, eh bien, Sumner Mantle, il a pris un fusil de chasse, il est allé retrouver Amy et il a tiré sur elle froidement, sans aucune émotion. Le crime a été commis dans la maison de Maître John Mantle, donc son frère, et chez qui demeurait Sumner, évidemment, là, tout ce beau monde-là habitait ensemble. Donc, encore une fois, le meurtre a lieu à la place où habitait la victime. Le procès de Mantle s'est déroulé du 9 au 13 décembre 1941 à Sherbrooke, devant le juge Hector Verrett. L'accusé lui était représenté par maître Charles Mignot, ou Charles Mignot. Je pense que ça serait mieux de même, arrêter de faire des engolfonneries avec tous les noms. Lui, Maître Mignot, a décidé de plaider la folie. Et c'était peut-être pas une mauvaise idée non plus, avec le parcours qu'on a vu tantôt de M. Mantle. Parmi les derniers témoins entendus, d'ailleurs, on compte les docteurs Daniel Plouffe, de l'hôpital des aliénés de la prison de Montréal, et J.A. Porthouse de l'asile protestant de Verdun. Et ces deux professionnels-là de la santé mentale se sont montrés d'accord sur le fait que Mantle était sain d'esprit au moment de commettre son crime. Mm-mm. Bien qu'il avait souffert de maladies vénériennes par le passé. Je sais pas ce que la maladie vénérienne vient faire là-dedans. Mais c'est sûr qu'il y a des maladies vénériennes, on se le cachera pas. Faut pas que je déconne non plus. Mais si elles sont pas soignées, ça a fini par affecter le cerveau. Fait que c'est sûrement dans ce sens-là, donc faut pas s'en surprendre non plus. Mais ça paraît quand même bizarre là, qu'il y a des. Mais tu sais, à première vue, là, je peux comprendre que les maladies vénériennes viennent affecter quelqu'un qui va devenir un tueur ou pas. Là. Pour la défense, ben, le docteur Dancy, lui, a tenté de démontrer que l'accusé était inapte à subir son procès. Mais apparemment, ça n'a pas été un succès, malheureusement. On raconte que les jurés ont délibéré durant une couple d'heures, et à la tombée du verdict, bon, on s'en doute, là, il a été déclaré coupable. Le condamné n'a eu aucune réaction, donc il est resté aussi froid que quand il avait abattu sa victime. Et quand on lui a demandé s'il avait quelque chose à déclarer, il a dit en anglais « I am not responsible for that crime, sir ». OK. Et je traduis, je ne suis pas responsable de ce crime, monsieur. Bref, le juge Verrette n'a pas eu d'autre choix, parce que c'est la loi qui l'exigeait, de fixer la date d'exécution au 20 mars 1942. Les journaux ont mentionné à quel point le juge se sentait affecté en prononçant cette sentence de mort. Je l'ai noté parce que c'est quand même des choses qui arrivent. On pense des fois que le système judiciaire est inhumain. Mais non, il y a des juges des fois qui... on a surpris certains juges apparemment dans certaines époques à pleurer en rendant le verdict. Mais il faut faire une certaine nuance aussi. Il y a des procès qui étaient tellement longs, tellement laborieux. Et à cette époque-là, on délibérait, les audiences duraient toute la journée et même se terminaient tard le soir. Et on plaidait même aussi le samedi. Il y avait juste le dimanche qu'on prenait congé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend toutes les fins de semaine. On arrête les audiences. C'est rare qu'on dépasse 5 heures, je pense, les jours de semaine. Donc, c'est plus reposant, on a plus le temps d'absorber la preuve et tout ça. Donc, je pense que dans certaines manifestations d'émotions comme ça à l'époque, je pense qu'il y avait aussi un peu de fatigue. C'est pas nécessairement le juge qui pleurait parce qu'il compatissait avec le condamné. Je ne pense pas. Ce qui est intéressant aussi, le dossier judiciaire, j'ai trouvé, évidemment, je ne vous lirai pas tout le dossier judiciaire, on s'en sortira pas avant un bon mois et demi. J'exagère, mais en tout cas, ça sera long, très long. Mais le 26 février 1942, le juge Verrette a écrit une petite note au ministre de la Justice, qui était à l'époque Louis Saint-Laurent. Et je vais lire la note, là, je pense que ça va être intéressant. Il dit « Il me semble que d'après la preuve, le jury n'aurait pas dû rendre un verdict de coupable de meurtre, mais plutôt de manslaughter. » Là, j'interviens juste pour préciser que manslaughter, ça veut dire homicide involontaire. Et il poursuit, car il n'y avait aucune preuve démontrant qu'il y avait préméditation. Comme je l'ai d'ailleurs dit dans mon rapport, Mantle est un déséquilibré et le motif du crime n'a pas été établi au procès. Mais il y a tout lieu de croire, d'après la preuve, que Mantle s'était amouraché de la victime et lui avait même proposé le mariage. C'est sans doute à cause du refus de la victime d'accueillir sa proposition de mariage que, dans un moment de surexcitation, il a commis son crime et je m'en rapporte à ce qui a été prouvé au procès quant à son internement à différentes reprises pour démence pour arriver à cette conclusion. Et je ferme les guillemets. Donc, le juge avait quand même fait son devoir. Il avait écouté la preuve qui avait été déposée devant lui. Et effectivement, ça semble ne pas avoir été prémédité. Et pour condamner quelqu'un à l'époque, il fallait qu'il y ait... pour condamner quelqu'un à la pendaison, à la peine capitale, il faut qu'il y ait eu l'élément de préméditation. Donc, de meurtre. Parce que je ne l'ai dit pas assez souvent... Mais en tout cas, aujourd'hui, on mélange tout ça là, dans les mots, dans les termes et tout ça. Pas étonnant qu'on prenne féminicide comme ça, puis qu'on se dit « Ah, c'est du féminicide! » Mais le mot « meurtre », ça automatiquement, le mot « meurtre » veut dire « avec préméditation ». Sinon, on parle de homicide involontaire ou homicide, ou bon, bref, tout ça. On utilise quand même le mot « meurtre » comme synonyme des fois de « bon, on l'utilise à toutes les sauces. » Mais bon... C'est pour ça que c'est quand même important de voir les termes ici. Et ça semble être vrai quand même. Parce que c'est le refus, il a pas prémédité ça longtemps. Lui, quand il a dit non au mariage, ben, il est allé prendre le fusil, puis paf, il l'a tiré. That's it, ça s'est terminé comme ça. Et d'ailleurs, le juge Verrette, que vous soyez d'accord ou non, ben il a eu raison. Parce que le 16 mars 1942, ben, la peine de Mantle a été commuée en emprisonnement à vie. Au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. Donc, on n'y a pas refait un procès, mais au moins, on a commué sa peine. Donc, on s'est dit, il mérite peut-être pas de mourir, là, parce que c'était pas prémédité. Mais voilà, il y a quand même... On s'imagine, en tout cas, j'ai pas la réponse, mais qu'il a quand même passé plusieurs années derrière les barreaux. Alors, voilà pour ce qui est de M. Mantle. Le prochain dossier s'est déroulé à Joliette. On est toujours en 1941. Donc, et la victime s'appelait Jeanne d'Arc Marion, 21 ans. Le 9 novembre 1941, Jeanne d'Arc se tenait sur le seuil de sa porte lorsqu'une balle de carabine l'a atteinte. Hein? Ça a été assez raide. Et au moment où la police a appris qu'elle avait annoncé à son copain de 27 ans, qui s'appelait Albany Plouf, qu'elle ne souhaitait plus le revoir, les recherches, évidemment, se sont concentrées sur lui. Hein? C'est assez évident. Elle est tirée chez elle. Ben là, on ne savait pas à cette époque-là, cette technique-là. Mais elle est tirée chez elle. Et puis, bizarrement, elle vient tout juste, on apprend qu'elle vient tout juste de dire à son copain qu'elle ne veut plus rien savoir, ben, hein, le suspect est assez facile à cibler. Pas besoin de la tête à Papineau ou d'un grand enquêteur pour comprendre ça. Et oui, effectivement, rapidement, son comportement l'a comme trahi parce que tout de suite après avoir tiré sur Jeanne d'Arc, ben, il s'est sauvé dans les bois. Et, les policiers l'ont retrouvé alors qu'il se cachait dans une meule de foin près de la maison de ses parents dans le rang Saint-Pierre à Sainte-Élisabeth. Alors, voilà, ils l'ont cueilli quand même assez rapidement. Oui, on peut dire qu'il s'est sauvé, mais on comprend aussi que c'était pas très planifié, son affaire. Donc, Albany Plouf a eu un premier procès, mais ça a comme tourné au vinaigre, cette affaire-là. Il y en a eu un deuxième. Et ce deuxième procès-là s'est déroulé le 28 novembre 1944 au palais de justice de Joliette, devant le juge Théodule Réaume. La couronne était représentée par Max Perrault et Guy Guilbeault. Et tous deux étaient assistés de maître Lucien Gendron, qui était une grande pointure pour l'époque. Du côté de la défense, c'est maître Georges-Émile Lapalme qui assurait la défense. Donc, selon la couronne, le mobile du crime serait un mélange de vengeance et de jalousie, puisque d'autres jeunes hommes tournaient autour de la belle Jeanne d'Arc. Hein? Peut-être, là. L'accusé, pour sa part, aurait également écrit des lettres de menace à son ex-copine avant de passer à l'acte. Donc, il s'est pas aidé, le monsieur. Il a laissé des traces écrites, pauvre petit bite. Tu sais, tu laisses des preuves, tu dis « Hey, je vais te tuer », puis après ça, tu essaies de dire « Ben non, c'est pas moi, ça va pas bien ». Tu l'as dit. Je l'ai dit que tu le ferais, les maudits innocents. Et comme preuve supplémentaire, eh bien, on a fait témoigner le docteur Jean-Marie Roussel, spécialiste de l'Institut médico-légal, justement pour confirmer que l'écriture des lettres était bien de la main de l'accusé. Donc, il n'y avait plus de doute possible, c'était Plouf qui avait écrit ces lettres de menace-là. Alors, c'est sans trop de surprise que le 15 décembre, le procès s'est terminé par un verdict de culpabilité. Le 1er mars 1945, on a permis à Plouf de recevoir la visite de ses parents à la prison de Bordeaux et aussi celle d'un révérend dénommé Albert Caron, qui était le chapelain de la prison. Comme on le dit, je n'ai pas décrit beaucoup d'exécutions jusqu'à maintenant parce que je pense que c'est pas super pertinent. Et souvent, on nous racontait aussi la même rengaine tellement que j'ai l'impression que les journaux avaient un certain modèle. Puis, pas qu'on nous cachait des choses, mais je pense que oui, des fois, là, pour nous éviter des descriptions trop dégueulasses ou peu importe, là. Trop inhumaine. Mais dans ce cas-ci, dans le cas de Plouf, selon les journaux, en tout cas, le condamné aurait fait preuve de résignation jusqu'à la toute fin. Mais comme je vous dis, c'était souvent le cas, on décrivait le comportement ainsi. Peu après minuit, le 2 mars, il a entamé sa dernière marche jusqu'à l'échafaud et la trappe s'est ouverte sous ses pieds. À 0h35, donc 35 minutes dépassées minuit, et son décès a été officiellement constaté à 0h54. Donc, on va terminer ici ce soir. Vous avez vu qu'on a quand même décrit quelques dossiers et on est encore en 1941. On n'a même pas avancé de 2 ans. Alors, c'est quelque chose. Et le prochain cas que je vais vous parler, c'est encore en 1941. Donc, le féminicide se multiplie, ou en tout cas, ils sont plus faciles à trouver aussi. Mais voilà, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de leur conjoint, malheureusement. Et bon, dans la société québécoise, ça semblait se multiplier en contexte de guerre. Est-ce que la guerre est venue jouer un rôle dans ça pour mettre plus de pression? Je pense pas. En tout cas, les chiffres ne le démontrent pas. Il n'y a rien qui peut faire un lien entre ça. Mais voilà. Alors, on se dit à la prochaine, dans la prochaine balado. Et on continue de voir d'autres cas parce que je suis convaincu que plus on en voit, plus on prend conscience qu'il y en a beaucoup, beaucoup trop. Et bref, je m'en allais dire qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça. Malheureusement, le crime est ce qu'il est. Il se transforme légèrement avec le temps. Mais pour l'arrêter complètement, c'est pas tout à fait comme un robinet. C'est plutôt comme un vieux, vieux, vieux robinet que même quand on le ferme bien serré, il continue à couler. Puis qu'il semble irréparable. Mais bon, bref, je pense que plus on en parle, plus il y a une certaine compréhension aussi. Alors, peut-être qu'on pourrait le diminuer sans l'enrayer complètement, mais si on peut éviter quelques drames, ben tant mieux. Alors, à la prochaine. Merci.